Choa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 11 décembre 2023 avec vous Eric Manelakiza. D'abord les titres. La CDAO reconnaît la junte au Niger et met en place un comité pour une transition vers la démocratie. Focus sur le journalisme en temps d'insécurité, thème majeur des universités africaines de la communication à Ouagadougou. Les élections générales du 20 décembre en RDC, des candidats dénoncent des actes de sabotage et d'agression à Goma.
Curieusement, je vois des gens qui me croisent à l'entrée de chez moi à la maison, tard dans la nuit, et ils m'appelaient à mon nom et citaient le numéro de ma candidature, le numéro 22. Du coup, ils m'ont rapi mon téléphone par force.
Élection présidentielle en Égypte, Abdel Fattah al-Sissi vise un troisième mandat. Face à trois candidats moins en vue, le vote s'étale sur trois jours, tandis que les résultats sont prévus le 18 décembre. La dette intérieure de l'État gabonais atteint 3 000 milliards de francs CFA. Les entrepreneurs locaux réclament 34 milliards.
C'est à juste titre que la task force, en l'espèce, ne peut être notre interlocuteur. Une seule évidence impose que l'État et ses démembrements règlent prioritairement la dette contentieuse dont notre collectif est porteur de créances.
Des chars israéliens pénètrent au centre de Khan Younes lors d'une nouvelle offensive militaire dans le sud de Gaza. La bataille pour l'avenir des énergies fossiles domine les négociations de la COP28 à la veille de la clôture du sommet sur le climat à Dubaï. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le sommet de la CDAO s'est tenu hier à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État de la sous-région ont officiellement reconnu la junte comme l'autorité militaire. Ils ont ensuite formé un comité composé de trois dirigeants chargés de négocier avec la junte nigérienne pour assurer une transition vers un régime démocratique. Les précisions de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le sommet d'Abuja a décidé de constituer un comité composé des présidents du Togo, de la Sierra Leone et du Bénin pour négocier avec la junte nigérienne sur une période de transition de courte durée en faveur d'un rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. Seule condition avant un éventuel assouplissement des sanctions imposées au Niger. Le sommet n'a pas précisé le nombre de mois ou d'années de cette transition. Le président nigérien Bola Tinubu, qui préside la CDAO, a appelé à renouer le dialogue avec les pays sous régime militaire avec des transitions planifiées, réalistes et à court terme. L'organisation sous-régionale a aussi examiné les développements au Mali, en Guinée et au Burkina Faso et les récents incidents survenus en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, condamnant les tentatives de coup d'État dans ces deux pays. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Les organisations de la presse privée de Guinée se sont divisées dimanche autour d'un appel à une journée morte pour ce lundi, lancé après une série de mesures de restrictions prises par la junte au pouvoir. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée dit la profession menacée d'extinction. Les écrans de télévision et les sites d'information vont afficher le message « presse en danger » et les radios resteront muettes, a-t-il précisé. Différentes associations de presse ont cependant appelé dimanche à sursoir aux actions comme les journées mortes. Elles disent entamer immédiatement des discussions avec les autorités et vouloir donner toutes les chances au dialogue. Maurice Kamto a été réélu dimanche à Yaoundé, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Âgé de 69 ans, Maurice Kamto n'affrontait aucune autre liste concurrente et l'emportait logiquement avec plus de 99% des suffrages, un score qui le désigne comme candidat naturel pour l'élection présidentielle prévue en 2025. Monsieur Kamto a annoncé la création d'une coalition, l'Alliance politique pour le changement ou APC. Il a aussi confirmé que le MRC prendra part à toutes les élections à venir, notamment les élections législatives et municipales, ainsi que la présidentielle en 2025. Les Égyptiens ont commencé à voter dimanche pour une élection présidentielle dans leur pays avec le président sortant Abdel Fattah al-Sissi en quête d'un troisième mandat pour sa propre succession. Le scrutin s'étend sur trois jours et les résultats sont attendus pour le 18 décembre. Gabi Dorsil.
S'il remportait la victoire, Abdel Fattah al-Sissi serait reconduit au pouvoir pour un mandat de 6 ans au cours duquel il devrait s'efforcer de maîtriser une inflation quasi record, gérer une pénurie chronique de devises étrangères et empêcher que le conflit dans la bande de Gaza ne s'étende. Quelque 67 millions d'électeurs sont appelés à voter sur 3 jours entre hier dimanche et demain mardi. 3 candidats se sont qualifiés pour affronter Abdel Fattah al-Sissi lors de l'élection, mais aucun d'entre eux n'est une personnalité de premier plan. Les autorités ont exhorté les Égyptiens à voter. Certaines personnes avaient toutefois dit ne pas être au courant du scrutin dans les jours précédant l'élection. D'autres ont déclaré que le fait de voter ne changerait pas grand-chose. Impliqué dans le coup d'État militaire contre le président démocratiquement élu Mohamed Morsi en 2013, Abdel Fattah al-Sissi, ancien général, a remporté l'année suivante l'élection présidentielle avec 97% des suffrages. Il a ensuite fait le même en 2018.
Campagne électorale en RDC, le président Félix Tshisekedi a tenu un meeting dimanche à Goma, dans l'est du pays, alors que la ville est quasiment encerclée par les rebelles du M23. Ces derniers ont mis en déroute l'armée congolaise, appuyée par des soldats burundais, des instructeurs militaires étrangers, et se sont emparés de plusieurs localités et d'une route stratégique. Vendredi, lors d'un meeting de campagne à Bukavu, capitale du Sud Kivu, M. Tshisekedi a comparé le président Paul Kagame aux dirigeants de l'Allemagne nazie Adolf Hitler et dénoncé des visées expansionnistes. Kigali a rapidement condamné ces propos en les qualifiant de menaces. Lors de sa dernière visite à Goma en juin 2021, M. Tshisekedi avait néanmoins rencontré son homologue Paul Kagame alors que les relations entre les deux pays se réchauffaient.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À la veille de la clôture du sommet sur le climat à Dubaï, les négociations à la COP28 ont viré à la bataille concernant le futur des énergies fossiles suite à l'appel de l'OPEP à écarter toute clause proposant l'abandon du pétrole et du gaz dans l'accord en cours de discussion. Davantage sur le sujet avec Rosine Mounetzer.
D'après des observateurs, l'Arabie Saoudite et la Russie figurent parmi les pays producteurs de pétrole, réclamant que les discussions à ce sommet aux Émirats Arabes Unis portent exclusivement sur une réduction des émissions polluantes et non sur la dénonciation d'une forme d'énergie en particulier. Face à eux, au moins 80 participants, dont les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays pauvres, vulnérables aux conséquences du changement climatique, réclament qu'un éventuel accord à la COP28 appelle clairement à l'abandon à terme des énergies fossiles pour tenter de respecter une trajectoire permettant de contenir la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, objectif fixé lors de la COP21 à Paris en 2015. D'autres pays comme l'Inde et la Chine n'appuie pas explicitement un appel à une sortie des énergies fossiles lors de cette COP28 et soutiennent le thème plus consensuel du développement des énergies renouvelables. L'initiative revient désormais à Sultan Al-Jaber qui devra enfin trouver un consensus. Un nouveau projet de texte doit être publié ce lundi matin.
Des chars israéliens ont réussi à pénétrer dimanche jusqu'au centre de Khan Younes dans le cadre de la nouvelle phase de l'offensive militaire israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza, principalement concentrée sur le sud de cette enclave palestinienne. Le point avec Mohamedou Oumfa.
D'après des habitants, les blindés de Tchahal ont atteint la principale artère liant le nord et le sud de la ville après d'intenses combats. Alors que les combats font désormais rage dans l'ensemble du territoire, les Gazaouis et les agences de l'ONU jugent qu'il n'y a de fait plus aucun endroit sûr où se réfugier, ce que conteste Israël. Le premier ministre du Qatar a déclaré dimanche que l'émirat du Golfe allait continuer à faire pression sur Israël et le Hamas pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve, bien que les chances s'amenuisent. Lors d'une conférence internationale à Doha au Qatar, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes ont vivement critiqué le veto des États-Unis vendredi à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Washington appuie la position israélienne selon laquelle tout cessez-le-feu ne ferait que bénéficier au Hamas.
Après le veto américain à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, l'Assemblée générale de l'ONU va prendre le relais demain mardi avec une réunion spéciale à annoncer dimanche la porte-parole du président de l'Assemblée. Cette réunion a été réclamée par les représentants de l'Organisation de la coopération islamique et du groupe arabe. Selon des sources diplomatiques, l'Assemblée générale pourrait se prononcer sur un texte s'inquiétant de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Il réclame également la protection des civils, l'accès humanitaire et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Mais les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes. L'Ukraine dit avoir abattu tôt ce lundi 8 missiles russes dirigés contre Kiev, les autorités locales faisant état de blessés. Par ailleurs, le Royaume-Uni va fournir à la défense ukrainienne 2 navires pour aider Kiev à détecter les mines marines russes en mer Noire et relancer ses exportations par voie maritime, a indiqué le gouvernement britannique ce lundi. De son côté, le président Joe Biden a invité son homologue ukrainien à venir à Washington demain mardi pour discuter des besoins urgents de l'Ukraine. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée par Nathalie Barge.
Au Togo, le ministre chargé de l'urbanisme, Kodjo Adzedze, a lancé un vaste projet de construction de logements sociaux. Plus de 20 000 logements vont être construits sur quelques 1 000 hectares en périphérie de Lomé. Les travaux d'aménagement de pistes sur 17 km ont débuté à Kpome la semaine dernière. Ces logements à coût abordable seront réalisés grâce à un financement de 5,13 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Le Cameroun et le Congo ont signé un partenariat pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 150 km reliant le site d'exploitation de fer Nabemba au port autonome de Kribi dans le sud-ouest du Cameroun. Une seconde phase portera sur la construction d'une ligne ferroviaire de 1300 km reliant les départements de la Sanga et du Kwilu. Au bout de quelques années, la production de fer devrait atteindre 125 millions de tonnes par an. Airbus et BMW ont lancé un concours mondial d'informatique quantique pour relever les défis dans les domaines de l'aviation et de l'automobile intitulé The Quantum Mobility Quest. La vice-présidente de la recherche technologique chez Airbus, Isabelle Grader, a déclaré que le constructeur aéronautique veut les meilleurs chercheurs, start-up et autres professionnels pour créer un changement de paradigme massif dans la façon de construire et de faire voler les avions.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Eric et bonjour à tous.
Football, clôture de la phase aller de la Coupe de la CAF avec l'USM Alger en tête.
Oui, 3 victoires en 3 matchs après son coup succès 1-0 face aux Égyptiens de Fitu FC. Même cas de figure pour les Amalek du Quai dans le groupe B qui a battu sur le même score les Angolais de Sagrada Esperanza. La Renaissance de Berkane réalise également le sans-faute dans le groupe D avec 9 points suite à sa nette victoire de 2-0 devant les Congolais de Diable Noir.
Incertitude dans le groupe C, Élisée.
Oui, puisque 3 équipes partagent la première place avec 6 points. Les Ghanéens de Turum FC, vainqueurs 3-2, les Angolais de Lobito sont en tête, suivis des Nigériens de Rivers United, victorieux 1-0 des Tunisiens du club africain, qui comptent aussi le même nombre de points.
En Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca renoue avec la victoire.
Le club marocain, finaliste de la dernière édition, a obtenu ses premiers points et se donne un peu d'air suite à son succès 1-0 en toute fin de match contre Simba FC de la Tanzanie. En tête de ce groupe, la SEC d'Abidjan, vainqueur 2-0 Botswana devant le Johannesburg Galaxy, avance à grands pas vers les quarts de finale. Pareil pour le Petro de Luanda, leader de la poule C, auteur d'un nul 0-0 chez l'Espérant de Tunis. Même score entre le tenant du titre Al Ahly du Caire et les Algériens du Sierra Belouizdad. Enfin, la situation est toujours rude dans le groupe A, où toutes les équipes comptent 4 points chacune. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns gardent tout de même la tête du classement, même accroché 0-0 à domicile par les Égyptiens de Pyramide. Score identique entre le FC Nouadhibou et le TP Mazembe.
Passons maintenant au football féminin avec le dernier tour au retour des éliminatoires de la CAN 2024.
Tout à fait, Eric. Les deux derniers espoirs de cette qualification n'ont pu rien faire. Le Sénégal battu par le Monténégro 29-21 et le Cameroun défait par la Croatie 24-15. Sénégalaises et Camerounaises s'affrontent aujourd'hui pour leur dernier match du tour principal.
Page des sports, signée Élisée Sonia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. La campagne pour les élections générales du 20 décembre s'intensifie en RDC, à Goma, dans l'est du pays. Certains candidats affirment être victimes d'actes de sabotage et d'agression. La campagne est marquée par des incidents et la destruction d'affiches. Les observateurs électoraux condamnent ces actes, soulignant qu'elles sont passibles de sanctions prévues par la loi. Plus de détails avec Zanem Netizaidi.
Sylvain Namuninga, candidat à la députation nationale, affirme avoir été victime de des attaques depuis le début de sa campagne électorale. Depuis, il a du mal à mener ses activités et vit dans la peur.
J'étais en train de sensibiliser mes gens pendant la journée et aussitôt terminé, je m'étais retiré de l'endroit en question pour aller à un autre endroit. Et curieusement, je vois des gens qui me croisent à l'entrée de chez moi à la maison, tard dans la nuit, et ils m'appelaient à mon nom et citaient le numéro de ma candidature, le numéro 22. Du coup, ils m'ont ravi mon téléphone par force, ils m'ont fait descendre de la voiture aussi par force et ils ont récupéré tout ce qu'il y avait dans la voiture, mon téléphone y compris. Je suis fortement en insécurité.
Son Elou Kaimel, du ministre congolais Moussa Diamouissi, témoigne.
J'avais une bâche, personnellement, on avait posé une bâche au niveau, par exemple, de notre au niveau de l'Instigo. Mais ma bâche était arrachée. Et celui qui l'avait posée le matin, donc il avait, le matin, il était là. Et puis, le deuxième jour, il n'y était plus, alors que d'autres étaient là. Et c'était presque un constat dans différents quartiers, au point que l'équipe s'est demandé s'il y avait des gens qui voulaient nous saboter.
Action pour le développement, l'éducation civique et la défense des droits humains en RDC, ADEC DDH RDC, rappelle que la loi est stricte en ce qui concerne la violation des droits des candidats lors des campagnes électorales. Carpath Toulinabo invite tous les candidats à respecter la loi électorale.
Tous ceux-là qui se livrent à arracher les affiches des candidats, tous ceux-là qui commettent des violations ou des abus pendant cette période de campagne, ils doivent savoir que la loi doit s'occuper d'eux, parce qu'on ne doit pas accepter que les graves violations des droits de l'homme soient faites pendant la période de la campagne. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, ils doivent respecter la loi.
La CENI s'est dit déterminée à organiser les élections de 20 décembre 2023 conformément au calendrier électoral, même si elle fait état des difficultés dans le déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du territoire. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
La semaine dernière s'est tenue au Burkina Faso la conférence annuelle des universités africaines de la communication à Ouagadougou. Cette plateforme a réuni des professionnels des médias pour discuter du journalisme dans un contexte d'insécurité. Thème central de cette édition, notre correspondant Lamine Traoré donne les détails depuis Ouagadougou.
La liberté de la presse et droit d'accès à l'information en contexte de crise sécuritaire et humanitaire a été la thématique cette année. Les journalistes doivent s'adapter au contexte de guerre, selon Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication.
Ce qu'on attend des professionnels des médias, c'est qu'ils puissent également être des acteurs combat contre le terrorisme. Il n'y a pas dans cette guerre contre le terrorisme une profession ou une partie des citoyens qui peut se jouer le téléspectateur ou le spectateur. Chacun doit s'impliquer dans cette guerre avec son arme. Et nous pensons que les journalistes ont des armes redoutables. Et aujourd'hui, ce que nous attendons des journalistes, c'est que bien sûr, ils soient également des acteurs la reconquête de notre territoire. Parce que la reconquête de notre territoire est un combat pour nos libertés. C'est un combat pour la vie tout court.
Hassan Diombele est le directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali.
Je pense qu'il est important pour nous, en tant qu'homme des médias, en tant que communicateur, en tant que journaliste, vraiment de repenser notre façon de communiquer, d'accompagner nos États dans une guerre qu'on appelle guerre de la communication. On a compris aujourd'hui qu'il était important pour nous de nous donner nous-mêmes la vraie lecture des événements que nous vivons.
Certains professionnels de médias pensent que faire du journalisme dans un contexte de crise sécuritaire est dangereux. Professeur Serge Théophile Balima, l'un des panélistes, est enseignant de journalisme.
Quelle sécurité pour les journalistes dans un contexte d'insécurité et de lutte contre le terrorisme? Il s'agit d'un métier dangereux en contexte de guerre ou d'insécurité. Les journalistes sont alors confrontés à de nombreuses difficultés. Ils opèrent dans un climat de violence et de menaces constantes, et ils sont souvent une cible privilégiée des différentes parties qui cherchent à contrôler les médias et à leur imposer leur version des faits. Tous ces éléments font du journalisme une période de sécurité un métier à la fois indispensable, passionnant et dangereux.
Près d'une vingtaine de communicateurs venus du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont pris part à la rencontre qui a pris fin ce week-end. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Gabon, les autorités de transition sont confrontées au paiement de la dette intérieure de l'État gabonais, passant de 400 à 3000 milliards de francs CFA en 3 ans. Les créances héritées du précédent régime ont été multipliées par 7 entre 2020 et 2023, révélant des surfacturations dans les marchés impliquant des entrepreneurs et des cadres de l'administration. Désormais, un collectif d'entrepreneurs locaux réclame 34 milliards de francs CFA à l'État. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangnze.
Jean Toutoumgoua et son collectif d'opérateurs gabonais ont décidé de se faire entendre. La Task Force sur la dette et ses conclusions semblent loin des attentes des entreprises créancières.
C'est à juste titre que la Task Force, en l'espèce, ne peut être notre interlocuteur. Une seule évidence s'impose, que l'État et ses démembrements règlent prioritairement la dette contentieuse dont notre collectif est porteur de créances. Car faut-il le rappeler, elle est marquée du sceau de l'autorité de la chose jugée.
L'estimation de cette dette, vieille de plus de 10 ans, peut donner le tournis.
34 milliards que l'État doit nous payer. Il y en a qui sont dans cette situation depuis bientôt une dizaine d'années. Hein. Voilà. Et avec des centaines d'employés. Voilà. Et il y en a même qui ont perdu leur vie et tout ça. Et qui ne savent pas. On ne sait pas comment faire. Donc, quand on prend le pouvoir, on gère et l'actif et le passif.
Pour le collectif des entrepreneurs gabonais, le paiement des créances exigées a déjà fait l'objet d'un contentieux jugé en faveur de ses membres. Francis Ntoleya, architecte urbaniste.
L'agent judiciaire de l'État qui est chargé de la liquider apparemment n'a pas suffisamment de moyens. Donc nous avons demandé dans nos déclarations, nous avons souhaité que l'État accorde plus de moyens à l'agent judiciaire de l'État. Et nous sommes des opérateurs économiques et nous avons travaillé pour l'État. Bon, l'État à un moment donné a eu des difficultés à nous payer. Donc c'est cet argent qu'on réclame.
Le sujet de la dette intérieure du Gabon a mis en lumière les fraudes dans les marchés publics. L'opération de vérification des dossiers à jour est validée par les instances appropriées. N'aurait donc tenu compte que de la période 2020-2022. Maître Louis Gaston Maillé, la membre du collectif des entrepreneurs, déplore le caractère exclusif de la Task Force de cette dette.
Il faudrait qu'on n'oublie personne, que tout le monde soit pris en compte. Et comme le président du CTRI l'a fait d'entrée de jeu, il faudrait intégrer à cela aussi les gens qui bénéficient de cette décision, qui ne condamnent pas, mais qui demandent avec insistance à l'État de prendre en compte tout le monde.
Récemment, l'État gabonais a sollicité et a obtenu d'une banque locale un crédit de près de 160 milliards de francs CFA. Plus de la moitié de cette enveloppe servira à payer la dette intérieure. Ismaël Obionzé pour VOA Afrique, Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'ONG Reporters sans frontières, RSF, appelle à l'accès des journalistes au poste frontière de Rafah à Gaza. Ce point de passage, contrôlé conjointement par les Palestiniens et les Égyptiens, relie Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à l'Égypte. Pour comprendre les défis majeurs auxquels sont confrontés les journalistes, nous nous sommes entretenus avec Jonathan Daguerre, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF à Paris.
Il y a deux problèmes, en fait. Le premier, c'est les journalistes qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. Au moins 300 d'entre eux ont dû évacuer le nord de la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre, à cause des frappes israéliennes. Des frappes qui, à présent, ont tué presque 58 journalistes, dont au moins 14 dans l'exercice de leur fonction, donc pour des raisons liées à leur travail. Ces 300 journalistes, pour pouvoir continuer de faire leur travail, ils ont dû évacuer le nord de Gaza et se sont installés à Khan Younes, qui est une ville de Gaza qui est plus au sud. Et là, depuis la fin de la trêve humanitaire entre Israël et le Hamas, ils ont reçu des ordres d'évacuer Khan Younes après qu'ils sont installés là-bas. Et donc, ils évacuent vers Rafah. Et Rafah, c'est le village à la frontière avec l'Égypte, qui est en fait, la frontière est fermée. Ces journalistes, ils sont coincés dans un territoire assiégé qui se rétrécit dans une situation très, très dangereuse. Même à Rafah, il y a des frappes. Même à Rafah, il y a eu des journalistes tués. Et là, ils sont coincés, ils font leur travail dans une situation très très difficile, et même ceux parmi eux qui veulent sortir ne peuvent pas sortir parce que la porte est fermée. La porte de Rafah, qui est entre Rafah et l'Égypte, le désert du Sinaï en Égypte, elle est fermée. Et donc, très peu de journalistes ont pu sortir depuis le début de la guerre par cette porte, et on demande de donner l'accès à ceux qui ont besoin de sortir, et aussi très important, qu'ils puissent revenir, de réentrer s'ils le veulent. Après, de l'autre côté, le problème, c'est qu'aucun journaliste international ou étranger n'a pu entrer à Gaza depuis le début de la guerre pour couvrir ce conflit, cette guerre.
Comment évaluez-vous l'impact de la restriction d'accès pour les journalistes aux postes frontières de Rafah sur la couverture médiatique de la situation à Gaza?
C'est une violation du droit international, c'est une atteinte au droit de l'information. Les journalistes internationaux ont le droit d'entrer à Gaza pour informer, pour transmettre des informations et des images de ce qui se passe à Gaza. Les journalistes ont le droit de couvrir ces conflits en sécurité. C'est impensable que dans deux mois de guerre, ils n'ont pas encore eu le droit. Très peu de journalistes ont pu entrer à Gaza. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait en intégration, embedded avec l'armée israélienne, avec les restrictions sur ce qu'ils peuvent couvrir. Et il fallait qu'ils soumettent leur matériel, leurs infos à l'armée israélienne avant de publier. Donc, il n'y a vraiment pas une information indépendante qui provient de journalistes internationaux parce qu'ils n'ont pas été autorisés à rentrer à Gaza. Et c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui d'ouvrir la porte de Rafah pour que ces journalistes puissent y accéder, pour qu'ils puissent rentrer et travailler auprès de leurs collègues gazaouis, palestiniens, qui sont coincés à Gaza. Donc des deux côtés, c'est important que les journalistes puissent circuler librement à travers cette frontière.
Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs en termes de liberté de la presse et d'accès à l'information?
Dans le contexte actuel à Gaza, il y a la situation sécuritaire qui est très très dangereuse pour les journalistes. Comme je vous dis, au moins 58 journalistes tués à Gaza par frappe israélienne depuis le 7 octobre, dont 14 dans l'exercice de leur fonction. Les journalistes qui s'étaient installés à Khan Younes, qui s'étaient débrouillés au niveau d'installer des points de connexion Internet pour pouvoir faire leur émission, leur communiquer avec leur rédaction, ils ont dû évacuer à cause des frappes maintenant à Khan Younes. À Rafah, il n'y a pas cette infrastructure qui permet ce genre de mobilisation des journalistes. Des journalistes, à part ça, ils n'ont pas accès à des ressources dont ils ont besoin pour travailler. À cause de ce blocus renforcé par Israël depuis le 7 octobre, à cause de la fermeture du seul accès à Gaza qui n'est pas sous le contrôle direct d'Israël, ce qui est la porte de Rafah, pardon. À cause de cette fermeture, par exemple, très peu d'aide rentre à Gaza, très peu de carburant, il y a des pénuries de carburant, ce qui veut dire, par exemple, que les journalistes ne peuvent pas charger leur téléphone parce qu'il n'y a pas d'électricité, beaucoup de mal à se connecter à Internet à cause des coupures, ne peuvent pas se déplacer en voiture pour couvrir. Il y a une situation presque impossible pour les journalistes à cause des mesures prises par Israël pour étouffer le journalisme à Gaza durant cette guerre.
Jonathan Daguerre, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF, joint à Paris. Le Monde aujourd'hui avec Eric Manirakidza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lionel Runanilagahima a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.